Il est juste 4 heures en temps universel, même heure à Nouakchott, 6 heures ici à Paris. Gaëtan Plenet vous accompagne pour une nouvelle demi-heure d'infos. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
7 candidats, un peu moins de 2 millions d'électeurs. Premier tour de l'élection présidentielle en Mauritanie aujourd'hui.
Et un choix à faire, celui de la continuité avec Mohamed El Rouazouani ou celui de l'alternance démocratique en plébiscitant l'un des civils engagés dans la course. Les Français, eux, ont encore une petite journée pour choisir s'ils veulent du changement ou pas sur les bancs de l'Assemblée nationale. Premier tour des législatives demain. Avec une forte participation attendue, le nombre de procurations d'ailleurs explose. Le début demain également à Doha d'un nouveau cycle de pourparlers sur l'Afghanistan. La nouveauté cette fois, c'est qu'une délégation talibane va participer alors que le régime n'a à ce jour été reconnu officiellement par aucun pays. Dans ce journal également, la fin de la doctrine Chevron aux États-Unis, une jurisprudence vieille de 4 décennies qui imposait dans certains cas aux tribunaux de se référer aux agences fédérales. Elles avaient le dernier mot sur des thèmes comme l'environnement et la santé, ce ne sera plus le cas. Et puis le Tour de France cycliste commence et l'Euro de football continue. L'Allemagne affronte le Danemark en 8e. Ce sera à suivre ce soir en direct sur RFI. Mohamed Ould Cher El Rouazouani restera-t-il à la tête de la Mauritanie? Lui l'espère en tout cas, mais ils sont 6 à vouloir lui prendre sa place. Ça fait donc 7 candidats engagés dans ce premier tour de la présidentielle qui a lieu aujourd'hui. Ouverture des bureaux de vote dans 3 heures maintenant. Plus d'1 900 000 électeurs sont appelés aux urnes. Et si second tour il y a, ce sera le 14 juillet. Alors quels sont les enjeux de ce scrutin? On voit ça depuis Nouakchott avec notre envoyée spéciale, Léa Lisa Westerhoff.
À la tête d'un pays qui n'a pas connu d'attaque djihadiste depuis 2011, le président sort. Pourtant, ex-chef d'état-major de l'armée se pose en garant de la sécurité et de la stabilité alors que le pays s'apprête à produire du gaz cette année. Face à lui, les 6 candidats, tous des civils, promettent une alternance démocratique alors que le pays a presque toujours été dirigé par des militaires et une rupture avec la promesse pour tous les candidats de lutter contre la corruption et pour l'emploi des jeunes. Parmi les enjeux du scrutin, le vote des jeunes justement. 60% de la population a moins de 25 ans selon les dernières statistiques de la Banque mondiale et 24% des 15 à 24 ans est au chômage. Pour cette présidentielle, peu d'observateurs internationaux ont fait le déplacement avec 30 personnes envoyées par l'Union africaine, 6 par la francophonie et 3 experts électoraux seulement du côté de l'Union européenne. Enfin, 750 observateurs mauritaniens seront déployés par l'Observatoire national, un organe mis en place par le gouvernement et dont l'opposition questionne l'impartialité. Léa Lisa Westerhoff, Nouakchott. RFI.
Et fermeture des bureaux de vote en Mauritanie à 19h heure locale avec des premiers résultats non officiels attendus dans la soirée. Des résultats qui commencent à tomber en Iran. Là-bas, on votait hier pour l'élection présidentielle, près d'un mois après la mort d'Ebrahim Raisi dans un accident. Si la participation semble faible, environ 40%, c'est Saïd Jalili, l'ancien négociateur ultra-conservateur du lourd dossier nucléaire, hostile à un rapprochement avec l'Occident, qui semble arriver en tête avec un petit peu moins de 42% des voix. Derrière lui, le seul réformateur engagé dans cette course à la présidence, Massoud Pezeshkian, avec un petit peu plus de 40% de résultats, je le précise, encore très provisoire. En France, ni résultats, ni sondages, ni même meeting, c'est fini depuis minuit. Maintenant, c'est silence électoral, alors que le premier tour des législatives anticipées aura lieu demain dans le pays. C'est même aujourd'hui, d'ailleurs, pour certains électeurs, ceux qui vivent par exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Antilles, en Guyane, en Polynésie française, ou encore pour celles et ceux qui résident sur le continent américain. La participation s'annonce forte. La preuve, le nombre de procurations a explosé, plus de 2 millions pour les deux tours. Demander à quelqu'un d'autre de voter à leur place, c'est ce qu'ont fait par exemple de nombreux vacanciers dont le départ était prévu bien avant l'annonce du scrutin. Au Hellfest, festival de musique métal à Clisson dans l'ouest de la France, ils sont d'ailleurs nombreux à être partis assister au concert L'Esprit Tranquille, procuration signée. C'est un reportage de Thomas Arms.
Derrière son costume de médecin de la peste, Aimé n'a loupé aucun Hellfest depuis 4 ans. Le scrutin de ce dimanche non plus, il ne va pas le manquer.
Oui, bien sûr, je vais aller voter avant de venir. J'ai même une procuration. Et j'ai une autre personne qui est dedans, et oui, elle va aller voter aussi.
Isabelle cherche, elle, de l'ombre avant de retourner voir et écouter des groupes de métal. À 55 ans, c'est sa 9e édition.
On est dans un autre monde pendant 4 jours, donc ça fait du bien de décompresser du boulot. Alors, le groupe qui m'intéresse apparemment métal, c'est Chaka Punk. Mais sinon, il y a Queen of the Stone Age. Malheureusement, j'ai pas trouvé de personne de confiance, puisque la personne de confiance, elle est avec moi. Donc, on votera au deuxième tour.
Les billets du Hellfest ont tous été vendus en quelques minutes, il y a 8 mois. Les festivaliers attendaient ce week-end, moins l'élection, comme Johanna, venue de Paris.
Quand il m'a dit qu'il avait pu avoir deux places, j'étais hyper contente, j'avais trop hâte. Ça fait un mois que je suis en mode « putain, c'est bientôt, allez !» Dès que j'ai su qu'il y avait l'élection, j'étais en mode « ok, alors je vais faire ma procuration à qui ?» Ok, bah je la fais directement. On est hyper au taquet sur ça, il n'y a pas de... hors de question qu'on vote pas quoi qu'il arrive.
Autour de 240 000 personnes sont au Hellfest sur les 4 jours. Thomas Harms, au Hellfest à Clisson, RFI.
Et le premier tour de ces législatives n'a pas encore eu lieu, que déjà les regards se tournent vers le second dimanche prochain. Quelles consignes en cas de triangulaire dans certaines circonscriptions, c'est-à-dire si trois candidats sont encore en lice, il pourrait y en avoir beaucoup. Alors le moment venu, le président français Emmanuel Macron a promis la plus grande clarté de la part du camp présidentiel. À gauche, plusieurs partis ont eux d'ores et déjà annoncé qu'ils se désisteraient pour faire barrage au Rassemblement national. La tentation du désistement aux États-Unis aussi, après le débat raté de Joe Biden face à Donald Trump. Le président de 81 ans est apparu confus, peinant parfois à s'exprimer, à tel point que dans un éditorial, le New York Times lui demande de laisser sa place côté démocrate pour le scrutin de novembre. Même son de cloche d'ailleurs de la part de certains membres de son parti, mais pas question de s'écarter pour Joe Biden. Le chef de l'État assure se sentir capable, je le cite, de faire le boulot, même s'il a reconnu ne pas s'exprimer ou bien débattre aussi bien qu'autrefois. Le début demain à Doha au Qatar d'un troisième cycle de pourparlers sur l'Afghanistan en présence d'une délégation de talibans. C'est la grande nouveauté, eux qui avaient été exclus des premières discussions, puis invités mais absents lors des deuxièmes. Cette fois, les autorités talibanes seront bien à la table de l'ONU après avoir exigé et obtenu que les femmes afghanes, elles, ne participent pas. Un comble pour certains, alors que des responsables de l'ONU avaient justement mis la question des droits des femmes dans la balance en vue d'une réintégration de l'Afghanistan dans la communauté internationale. Vincent Souriau.
Officiellement, personne à ce jour n'a reconnu le régime taliban. Officieusement, c'est une autre histoire. Car que prévoit le droit international ? Rien du tout. Pour reconnaître un gouvernement, il n'y a pas besoin d'actes juridiques, de déclarations publiques, de lettres ou de tampons. Ce qui compte, c'est le concret. Exemple, en janvier 2023, lorsqu'une entreprise chinoise signe un accord d'extraction pétrolière avec l'Afghanistan, lorsque l'Azerbaïdjan rouvre son ambassade à Kaboul, ou lorsque le ministre pakistanais de la Défense rend visite aux responsables talibans, ils admettent de fait la légitimité des autorités. Chloé de Péry-Sibailly, chercheuse associée au centre Thucydide de l'université Paris 2.
C'est à chaque État de décider de le faire de manière officielle ou bien de le faire de manière officieuse. Finalement, les relations économiques et commerciales qu'on a avec un pays, ça veut dire qu'on admet que c'est bien le gouvernement de ce pays et que c'est bien lui qui dirige ce pays.
C'est un secret de polichinelle. Inde, Chine, Russie, Iran, Pakistan, les voisins de l'Afghanistan sont en contact très étroit avec les talibans. Ils n'ont jamais rompu leurs relations diplomatiques. Si ce n'est pas une reconnaissance, cela en a pourtant la couleur, le goût et l'odeur. Elle n'est pas encore officielle, soumise à condition, mais elle pourrait prendre à très court terme la forme d'une déclaration simultanée signée par l'ensemble des pays de la région.
Vincent Souriau. Des dizaines de milliers de nouveaux déplacés ont fui la ville de Gaza après de nouveaux combats hier entre l'armée israélienne et le Hamas. La défense civile de l'enclave parle de nombreux morts. D'autres frappes israéliennes ont eu lieu dans le centre de la bande de Gaza, à Deir el-Bala et Nusayrat, mais aussi dans le sud, du côté de Khan Younes et de Rafah. Aux États-Unis, la Cour suprême a mis fin à celle que l'on surnommait la doctrine Chevron. Alors concrètement, ça réduit la liberté d'action des agences fédérales. La majorité conservatrice de la Cour n'en voulait plus. Le camp démocrate, lui, y voit surtout un recul. À New York, Loubna Naki.
C'était une jurisprudence mise en place sous Ronald Reagan en 1984. Et à l'époque, elle avait été saluée comme une victoire, baptisée la doctrine Chevron, et l'imposait aux tribunaux de se référer aux agences fédérales en cas d'ambiguïté ou de silence de la loi sur des questions dépendant de la compétence de ces agences. Cela s'appliquait ainsi à des domaines importants comme l'environnement, la santé, la protection sociale ou la protection des consommateurs. Les agences fédérales pouvaient avoir le dernier mot. Une mesure longtemps décriée par la droite conservatrice qui se bat depuis toujours pour limiter le pouvoir de l'État fédéral et qui y voyait une ingérence du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Hier, la Cour suprême a donc décidé d'y mettre fin. 6 juges contre 3, avec tout de même un détail. La juge conservatrice Amy Coney Barrett s'est rangée du côté du maintien de cette jurisprudence, alors que la juge progressiste Ketanji Brown Jackson a voté pour la fin de cette doctrine Chevron. Une décision qui, en tout cas, a été tout de suite vivement critiquée par la Maison Blanche. Kamala Harris estime que cela va à l'encontre des droits des citoyens américains. Loubna Naki, New York, RFI.
Soleil, mer, randonnée, la carte postale attire chaque inquiéter des centaines de milliers de touristes aux îles Canaries. Et ça se ressent déjà dans la fréquentation de l'archipel espagnol en ce moment, où la population ne le vit d'ailleurs pas très bien. La contestation monte face à ce tourisme de masse. Reportage de François Musso.
Aux Canaries, on compte 2 200 000 habitants et l'an dernier, 16 millions de touristes. Certes, ce secteur est vital, il pèse plus de 30% dans le PIB régional et plus encore si l'on prend en compte son impact de façon indirecte. Mais ce déséquilibre est tel qu'un sentiment d'étouffement s'est emparé d'une partie de la population, ce qui explique une manifestation historique qui s'est déroulée en avril et qui a laissé des traces. Benaïga, infirmière, fait partie d'un de ces nombreux collectifs en colère.
Ça a changé notre manière de nous organiser, ça a fédéré toutes les organisations sociales qui peuvent enfin se plaindre. Et ça ne fait que commencer.
C'est tout le paradoxe d'un archipel, et notamment l'île de Gran Canaria, où les gens vivent du tourisme, mais supportent en même temps de moins en moins ses effets pernicieux. C'est le cas d'Enrique, jeune professeur d'histoire.
On arrive à saturation, à tout point de vue. C'est valable pour les infrastructures, mais aussi pour notre façon de vivre et plus généralement pour le tissu social de l'île.
Officiellement, les autorités de l'île et de l'archipel, une des 17 régions espagnoles, disent approuver et comprendre la population. Mais dans la pratique, rien n'a encore été fait pour corriger le tir. Au contraire, les objectifs officiels sont d'accroître encore davantage le nombre de visiteurs cette année. François Musso, Las Palmas aux Canaries, RFI.
Top départ des huitièmes de finale de l'Euro de football. La Suisse et l'Italie ouvriront le bal à 16h, temps universel. Et puis ce sera au tour des hôtes allemands de tenter de se qualifier contre le Danemark. Un match à suivre en direct et en intégralité sur RFI. Rendez-vous à partir de 19h. Et puis le Tour de France démarre. Oui, mais pas en France. C'est de Florence, en Italie, que les cyclistes s'élanceront tout à l'heure pour cette 111e édition. L'arrivée, elle, ne se fera pas à Paris comme de coutume. Jeux olympiques obligent, non. Ce sera à Nice que la grande boucle s'achèvera. Rendez-vous le 21 juillet. Merci d'écouter RFI. Il est 6h et quasiment 12 minutes à Paris. Le retour de l'actualité africaine dans une petite vingtaine de minutes. Mais d'abord, comme chaque samedi, on fait le tour de l'actualité des médias francophones publics et de ce qui les a occupés cette semaine. C'est l'accent des autres, présenté par Olivier Nederland de la RTBF.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Et c'est donc l'actualité de la semaine vue par les 5 partenaires des médias francophones publics. Et c'est le dernier numéro de la saison avec pour commencer une décision judiciaire. L'ancien patron de la police islamique de Tombouctou est reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, Nicolas Sûr.
Abdulaziz Alassane a sévi dans la ville sainte malienne quand elle était occupée par les djihadistes en 2012 et 2013.
La Suisse se réjouit de l'élection de l'ancien président de la Confédération, Alain Berset, une élection au poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe, Pierre-Anne Chauffat.
Un beau succès diplomatique, estime-t-on à Berne, qui souligne aussi l'attachement de la Suisse à ce Conseil chargé de défendre et promouvoir les valeurs démocratiques sur le continent européen.
C'est le premier tour des législatives en France ce dimanche. La tension politique est palpable. Elle l'est parfois aussi au sein des familles quand il s'agit de parler politique.
J'ai une sœur un extrême qui nous plaît pas trop, ouais. Mais du coup, on évite de parler avec elle, ouais.
Reportage du côté de Strasbourg dans un instant. En Belgique, 2000 personnes ont reçu cette semaine les résultats d'une étude de santé. L'objectif des autorités, c'était de mesurer la concentration de polluants éternels, les PFAS, dans leur sang, Jacques Crémers.
Oui, leur présence anormale avait été identifiée dans l'eau de consommation, l'eau du robinet de plusieurs localités. Ainsi, à Chièvre, dans la province de Hainaut, plus de 28% des personnes testées présentent un taux de PFAS supérieur au seuil de risque.
Enfin, après une année record de feux de forêt en 2023 au Canada, la saison 2024 pourrait être tout aussi dévastatrice, Karine Matteux.
Il y a environ 160 feux actifs au Canada en ce moment et déjà des communautés, une centrale hydroélectrique et un pénitencier ont dû être évacués.
Et voilà pour le sommaire de ce dernier numéro de la saison. Il aura fallu 4 années de procès. L'ex-chef de la police islamique de Tombouctou au Mali a donc été reconnu coupable d'actes de persécution, de torture et d'actes inhumains par la Cour pénale internationale, Nicolas.
Oui, un chef de la police zélé qui faisait appliquer les sentences prononcées par le tribunal islamique à l'encontre de celles qui ne portaient pas le voile, des couples adultères ou contre tous ceux qui ne respectaient pas les lois du nouveau pouvoir à Tombouctou. La ville aux 333 saints, au lieu de l'érudition islamique, était tombée sous la coupe des groupes djihadistes comme tout le nord du Mali en avril 2012. L'occupation avait duré 8 mois jusqu'à sa libération par l'armée française. Pour la CPI, Alassane a participé et ordonné la flagellation en public d'au moins 13 personnes. Certaines femmes ont été enfermées dans un distributeur habillé proche du siège de la banque qui était devenu son quartier général.
Alors question Nicolas, que sait-on de son parcours ?
Aujourd'hui âgé de 46 ans, originaire d'un village proche de Tombouctou, Alassane exerçait comme vétérinaire, a assuré son avocate, avant de rejoindre En Sardine. Ce groupe local avait été créé par le Touareg Yada Grali, qui est désormais à la tête d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il avait été arrêté en 2017 au Niger voisin par la force française Barkhane. Il risque la perpétuité, la sentence sera décidée dans les prochaines semaines.
C'est une première, un Suisse va occuper le poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il s'agit de l'ancien président de la Confédération, Alain Berset. Il a été élu mardi à Strasbourg par l'Assemblée parlementaire de l'organisation Piran.
Oui, Alain Berset, une voix connue des fidèles de l'accent des autres, puisqu'il a géré la crise Covid comme ministre de la Santé. Alain Berset qui a quitté le gouvernement suisse il y a tout juste 6 mois. À 52 ans, il rebondit donc au sein de cette instance garante de la Convention européenne des droits de l'homme. Une campagne de près de 5 mois avec le soutien de la diplomatie suisse, 25 capitales visitées sur les 46 pays membres de l'organisation, d'innombrables rencontres et poignées de main qui ont permis à Alain Berset de passer l'épaule face au Belge Didier Reynders, futur ex-commissaire européen à la justice, et face à l'ancien ministre estonien de la culture, Indrek Saar.
Alors Alain Berset prendra ses fonctions en septembre. Pierre-Anne, quelle est son ambition ?
Faire progresser la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme sur le continent européen, d'où la priorité qu'il veut mettre sur l'Ukraine. Car si le Conseil de l'Europe n'est pas une organisation de sécurité, il doit se battre pour ses valeurs, ce qui lui donne une responsabilité vis-à-vis de l'Ukraine.
C'est l'organisation qui a organisé le sommet de Reykjavik l'année passée. Ironie de l'histoire, j'avais eu le privilège d'y participer comme président de la Suisse pour préparer la feuille de route du Conseil de l'Europe et du continent européen pour le soutien à l'Ukraine. Et maintenant, il faut vraiment se donner les moyens et les outils pour réussir à avancer. Une méthode qui doit permettre d'être encore plus efficace pour avancer vers les objectifs de soutien à l'Ukraine, de réparation avec des financements et aussi de faire en sorte qu'aucun crime ne reste impuni.
Il convient de rappeler à ce sujet que la Russie a été exclue de l'organisation à la suite de son agression contre l'Ukraine.
L'accent des autres.
Le premier tour des élections législatives en France, c'est ce dimanche. La tension politique, évidemment, est particulièrement forte. Et cette tension, eh bien, elle s'exporte aussi parfois dans les familles où les sujets liés à la politique deviennent explosifs, notamment chez ces Strasbourgeois qu'Antoine Ballandra a rencontrés.
Depuis quelques semaines, quand cette Strasbourgeoise va manger chez les parents de son mari, la politique est devenue un sujet quasi tabou.
Bah, moi, dans ma belle famille, en tout cas, on n'en parle pas. On n'aborde pas le sujet parce que, voilà, on a tous, je pense, des avis très différents. Donc, voilà. On préfère ne pas aborder le sujet pour que les repas se passent dans le calme et dans la sérénité.
Apolline, une étudiante strasbourgeoise, elle préfère lever le pied, question politique, lors des soirées entre copains.
Il y a un peu plus d'avis divergents, du coup, ça peut très vite partir un peu dans les tours. Mais oui, surtout en ce moment, ouais, il y a plus de conflits.
Ce jeune strasbourgeois, qui ne parle pourtant que très peu de politique, a quant à lui vu naître un conflit avec sa sœur après la dissolution de l'Assemblée nationale.
J'ai une sœur un extrême qui nous plaît pas trop, ouais. Mais du coup, on évite de parler avec elle, ouais.
Il y a aussi la tension qui s'invite même au sein des couples qui ne pensent pas forcément pareil.
Même entre nous, c'est même on n'en parle pas entre couples, donc voilà. C'est personnel.
La règle d'or, c'est donc au moins la tolérance et la discrétion, même au cœur des familles.
On essaye d'être tolérant et avec ma fille, c'est peut-être le seul secret qu'elle a, j'espère, vis-à-vis de moi.
On peut lui demander.
Seul secret.
Non, donc il faut en discuter, mais il faut respecter le choix de chacun et voter.
Reportage Antoine Ballandra pour France Bleu Alsace. De nouvelles intempéries ces derniers jours en Suisse, on va y revenir. Mais d'abord, on va se rendre au Canada parce que l'été vient à peine d'arriver. Et déjà, les feux de forêt forcent l'évacuation de plusieurs communautés, Karine.
Entre autres, à Terre-Neuve-et-Labrador, les résidents de Churchill Falls ont dû quitter la ville. L'incendie s'est rendu jusqu'à 3 km de la communauté. Le brasier s'est aussi approché de la centrale hydroélectrique qui s'y trouve, forçant l'évacuation des employés. Elle est donc pilotée à distance, une première pour cette centrale construite dans les années 60. Donc, c'est un moment difficile pour les résidents touchés. Shane Ivani est l'un des évacués.
We can't believe this is actually happening to our small community.
Il dit être sous le choc et ne pas croire qu'une telle situation puisse arriver à sa petite communauté. Il espère que la météo sera clémente. Et il semble avoir été entendu. Le feu a baissé en intensité grâce à l'action des pompiers, mais aussi de la météo.
Et autre conséquence des feux de forêt, Karine, un pénitencier a aussi dû être évacué.
Cette fois, ça s'est passé dans la province de Québec, sur la Côte-Nord. 225 détenus du pénitencier de Port-Cartier, une prison à sécurité maximale, ont été évacués d'urgence en raison des feux et ont dû être déplacés vers d'autres pénitenciers. Une opération sans précédent. Voici un représentant syndical des agents correctionnels du Canada, Mike Bolduc.
Est-ce qu'on était prêt pour faire une évacuation complète d'un établissement comme ça? Je vous dirais que non. Il fallait trouver le plus vite possible des agents pour venir nous aider. Puis, comme exemple, les menottes, les chaînes aux pieds, on n'avait pas assez d'équipement là-bas, donc on est obligé d'utiliser des tire-rats.
Il déplore que les agents aient dû se servir d'attaches en plastique autobloquantes dans certains cas en raison d'un manque de menottes.
Et tout ça pourrait n'être qu'un avant-goût de l'été.
Partout au Canada, l'hiver a été marqué par des températures plus élevées qu'à la normale et par un manque de précipitations. Le printemps aussi a été plus chaud, ce qui accentue la sécheresse et met en place des conditions favorables aux incendies. Notons que l'an dernier, le Canada a dû demander l'aide de sapeurs-pompiers étrangers, notamment de la France, mais aussi des États-Unis et d'aussi loin que de l'Afrique du Sud ou de l'Australie pour soutenir les pompiers dans le combat. Donc, l'année dernière a été un tournant dans l'histoire des incendies au Canada. Espérons que 2024 n'entrera pas dans l'histoire.
Et pendant ce temps, la Suisse, je vous le disais, a aussi été victime d'intempéries, Pierre.
Oui, des orages d'une violence rare et des précipitations intenses qui ont fait déborder des rivières, provoquer des éboulements. Un village dans les Grisons a littéralement été coupé en deux par une lave torrentielle. Les autorités font état de 4 victimes, 3 victimes également dans les Alpes bernoises et d'importants dégâts matériels dans les Alpes valaisannes. De nouveaux orages en plaine, cette fois, ont provoqué inondations et dégâts, y compris au centre de contrôle aérien de Genève, ce qui a fortement perturbé les vols.
On va se quitter en Belgique avec les suites d'une pollution. 2000 personnes dans les communes de Chièvre et Ronquières dans le Hainaut ont reçu cette semaine les résultats d'un biomonitoring. C'est une étude de santé destinée à mesurer la concentration de PFAS dans le sang. L'analyse démontre en fait une surexposition des personnes testées à ces polluants éternels, Jacques.
Oui, chacune des personnes testées l'a été sur base volontaire suite à une enquête de la RTBF qui avait révélé en novembre dernier des taux de PFAS anormalement élevés dans l'eau du robinet de plusieurs localités. Et en effet, le biomonitoring confirme la présence anormale de PFAS puisqu'à Chièvre, par exemple, plus de 28% des personnes testées présentent un taux supérieur au seuil de risque. Au-delà de ces 20 microgrammes par litre, la recommandation des autorités est de prendre contact avec son médecin. Il n'y a pas d'urgence à mettre en place un suivi médical, disent-elles, mais elles conseillent de le faire dans les prochains mois pour réduire son exposition et ne prendre aucun risque pour la santé. C'est le cas de cette dame dont le résultat est supérieur à 40 microgrammes.
J'ai pas du tout peur, je suis un petit peu en colère. J'ai pris rendez-vous chez mon médecin. J'espère qu'au moins les médecins de la région ont été un peu mis au courant de ce qu'ils devaient faire, dire et nous diriger. Donc j'attends ça et puis on verra.
Mais d'autres habitants sont beaucoup plus inquiets, notamment concernant l'impact sur leur fertilité, par exemple. Une première réunion d'information a eu lieu mercredi soir, il y en aura d'autres, mais pour ce médecin généraliste qui y a assisté, les recommandations faites d'un point de vue médical ne sont pas assez précises.
Pour l'instant, dire aux gens « allez chez votre médecin, il vous dira quoi faire », ben non. Il faut que la population sache que le médecin n'a pas un canevas clair et net de ce qu'il faut faire.
Cette absence de réponse concrète génère bien naturellement un certain stress auprès des personnes concernées. Un soutien psychologique devra leur être apporté. Quant à la commune de Chièvre, elle a décidé de porter plainte contre X.
Oui, on ne connaît toujours pas l'origine de cette pollution à ce stade. Voilà, on va se quitter ici avec Jacques Kremers et la RTBF. Merci d'avoir été là tout au long de la saison. Merci à mes partenaires des médias francophones publics, RFI, France Bleu, la Radio-Télévision Suisse et Radio-Canada. L'accent des autres va faire une petite pause estivale et on se retrouve à la fin du mois d'août pour une nouvelle saison. Je vous souhaite d'ici là un excellent été.
Et le rendez-vous est pris, on se dit à la fin de l'été. C'était l'accent des autres, présenté par Olivier Nederland de la RTBF. Le retour de l'actualité africaine dans un petit peu plus de 5 minutes. Mais d'abord, le diplomate et les Français de l'étranger, comprendre les pratiques de l'État envers sa diaspora. Ça, c'est le titre du dernier livre de Christian Lequesne, qui vient de paraître aux éditions presse de Sciences Po. Le résultat de recherches avec notamment des entretiens dans les ambassades et auprès des Français aussi établis hors de leur pays. L'auteur Christian Lequesne est professeur à Sciences Po Paris et il est interrogé ce matin par Corinne Manjou pour Vivre ailleurs.
Dans mon précédent livre, qui s'appelait « Ethnographie du Quai d'Orsay », j'essayais de comprendre les pratiques des diplomates français, non seulement à Paris, mais aussi dans les ambassades. Et je me suis rendu compte que les questions consulaires, les questions qui étaient gérées par les consuls, on n'en parlait quasiment jamais dans la recherche en sciences sociales. Et pourtant, ça offrait beaucoup de thèmes de réflexion, notamment dans une période où on a de plus en plus de mobilité internationale. On parle toujours de l'immigration en France, mais on oublie de dire qu'il y a aussi une émigration française vers l'extérieur. Et donc, je me suis dit, dans ces questions consulaires, il y a vraiment la relation avec les Français de l'étranger. Le travail du diplomate concerne l'étranger, mais parfois le diplomate travaille aussi avec des citoyens nationaux. Et c'est exactement le thème de mon livre, la relation entre le diplomate et les Français de l'étranger.
Dès l'entame de votre livre, vous parlez de deux concepts, le concept de diplomatie consulaire et de diplomatie de diaspora.
La diplomatie consulaire est une diplomatie de protection des citoyens vivant à l'étranger. Et dans le cas français, cette protection est plus généreuse que dans la moyenne des États, puisqu'elle aborde même la question des aides sociales, de l'État-providence, avec des bourses qui sont données pour les élèves qui en ont besoin, bien sûr, mais qui fréquentent les établissements français à l'étranger. Donc, c'est toute l'activité de protection que j'appelle la diplomatie consulaire. En revanche, la diplomatie de diaspora, c'est différent. Diplomatie de diaspora, ça consiste pour le diplomate à utiliser l'acteur français de l'étranger ou l'acteur diasporique pour essayer de faire de la diplomatie dans les pays du monde, c'est-à-dire transformer dans la mesure du possible l'acteur diasporique en un ambassadeur privé aussi qui aide la diplomatie de la France. Cette deuxième pratique est plus difficile pour les diplomates français que la première.
Globalement, quel est le rôle du diplomate auprès des Français de l'étranger ?
Les services qui sont offerts en France sont quand même des services larges, puisque vous avez toute la production documentaire, c'est-à-dire refaire ses papiers quand on est à l'étranger. Deuxièmement, il y a le réseau des écoles. C'est quand même assez unique d'avoir un État qui donne chaque année 500 millions d'euros, dont 100 millions de bourses pour les établissements scolaires du réseau français. Et puis ce sont les aides sociales. Il y a la possibilité de bénéficier d'aides sociales. C'est 15 millions sur le budget du ministère des Affaires étrangères à peu près chaque année. Si vous ajoutez à ça les campagnes de vaccination au moment de Covid, si vous y ajoutez le rapatriement possible lorsqu'il y a des situations de guerre civile ou même de catastrophes naturelles, on peut dire quand même que en France, l'État essaie de conserver un lien très fort avec les Français de l'étranger parce que on considère que dans une conception universelle de la citoyenneté, celle-ci n'a pas de frontières.
Dans votre livre, vous parlez aussi du retour d'expatriation. L'impatriation est souvent complexe.
Eh oui, quand vous voulez rentrer en France, il y a tout un tas de problèmes qui se posent. D'abord, il y a des problèmes administratifs, etc. Et puis, vous pensez que vous pouvez valoriser très fortement votre expérience internationale. Puis, vous vous rendez compte que dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de l'administration, l'international, on n'y attache pas une importance si grande que cela. Et quelque part, vous êtes déçu.
Christian Duquesne, professeur à Sciences Po Paris et auteur du livre « Le diplomate et les Français de l'étranger, comprendre les pratiques de l'État envers sa diaspora ». C'est aux éditions presse de Sciences Po. Il est interrogé par Corinne Monjou pour Vivre ailleurs. Merci d'être avec nous sur RFI. Il est 6h29. Je vous rappelle une adresse, rfi.fr, pour retrouver nos reportages, nos magazines, puis radio aussi, notre application, si vous avez envie d'écouter nos journaux, pourquoi pas. Merci à Michael Verne qui était à la réalisation de cette demi-heure d'information. Merci aussi à Emmanuel Klotz et Pierre Pinto qui ont été à la rédaction en chef. À suivre le journal Afrique en français, sauf si vous nous écoutez en Swahili en Afrique de l'Est, où là vous avez rendez-vous avec 30 minutes d'information en Swahili. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée à notre écoute.
Vivez l'UEFA Euro 2024 sur RFI. Sofiane Amazian.
Qui pourra arrêter la tempête allemande? Avec 8 buts marqués et forte de 2 victoires et 1 nul en phase de groupe, la Nationalmannschaft veut aller au bout de son euro. En face, le Danemark, qui a tenu en échec l'Angleterre en poule, est prêt à créer la surprise. Allemagne, Danemark, 8e de finale de l'euro, à suivre en direct et en intégralité ce samedi dès 19h temps universel sur RFI.